Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Mai 1978. Jacques Mesrine vient de passer une nouvelle année en prison. Il lui en reste 19 à tirer. Le jugement était clément, mais ses meurtres le rattrapent. Une aubergiste et deux gardes-chasse québécois, un proxénète parisien et une tentative sur un flic. Mesrine risque ni plus ni moins qu'une condamnation à perpète. Et la sentence pourrait bien être exécutée à la française. Avec une guillotine. En cette fin de printemps 1978, Mesrine est de retour au QHS de la Santé. La prison dont on ne s'évade jamais. Il a été transféré 3 mois plus tôt, depuis la prison de Fresnes. En même temps qu'un autre détenu avec lequel il a sympathisé. François Besse, dit « le petit François ». Ce cambrioleur de 32 ans est aussi surnommé l'anguille. Car de 1971 à 1975, il a réussi 3 évasions.
Lundi 8 mai 1978. Il est 10 heures passées. Jacques est au parloir du QHS. Il s'entretient avec Christiane Giletti, l'une de ses 18 avocats. La pièce n'est pas plus grande qu'une cabine téléphonique. Les murs sont couverts d'agglos perforés, comme il y en a dans les garages pour accrocher les outils. Sans prévenir, Jacques cogne sur les cloisons. Vous allez voir, maître. Je vais vous montrer qu'il y a des micros. Aussitôt, il bondit sur la tablette qui le sépare de l'avocate et arrache une plaque du plafond. Derrière, une cache d'armes. 4 flingues, des bombes lacrymogènes et une corde de 18 mètres. Jacques empoche le tout, saute de la tablette et s'engouffre dans la coursive. Non sans s'être excusé d'un baise-main auprès de maître Giletti.
À l'opposé du parloir, dans le prétoire, les surveillants ne se doutent de rien. Mesrine répète si souvent qu'il se fera la belle qu'on ne le croit plus. Depuis l'arrivée du petit François, le grand Jacques tempère ses ardeurs. On dirait Laurel et Hardy, des comiques. Alors, quand les deux détenus surgissent, armes au poing, c'est la stupeur.
Sans ménagement, Jacques force surveillant-chef à se déshabiller. Il enfile son uniforme, puis récupère le trousseau de clés et enferme les matons. François a eu le temps de se fringuer à l'identique. Tous deux foncent récupérer le grappin au mitard. Dans sa cellule, Carmen Rives, condamné à perpète, les voit passer. Il demande à être libéré. Jacques le prend en pitié.
Dans la cour de promenade, une trentaine de détenus. Et une échelle. Depuis quelques semaines, des ouvriers posent des grilles aux fenêtres des cellules pour renforcer la sécurité. L'échelle est assez haute pour passer le mur d'enceinte. Encore faut-il rejoindre le chemin de ronde, derrière la lourde porte qui en condamne l'accès.
Le chef des ouvriers en a la clé. Et Jacques a le chef des ouvriers au bout du canon. La porte ouverte, les trois comparses débouchent dans la longue cour de ronde. À l'angle, un surveillant dans sa guérite, flanqué d'un fusil 5 coups. Le temps qu'il comprenne la situation, Jacques le neutralise et lui prend son arme. François oblige les ouvriers à ramener l'échelle et monte le premier, agile comme un chat. Arrivé au sommet, il accroche le grappin et déroule les 12 mètres de corde côté rue.
Les matons repèrent les fugitifs et déclenchent l'alarme. Dans la rue, des policiers sont alertés. Mesrine et Bess glissent le long de la corde. Avec leurs uniformes, ils font illusion. Au sommet du mur d'enceinte, Carmen Rives est le dernier à se lancer. Il n'a pas le temps de toucher terre qu'il reçoit une balle dans le dos.
Tant pis pour lui. Jacques et François se ruent en direction du boulevard Saint-Jacques. Une R20 arrive à leur gauche, ça fera l'affaire. Ils l'arrêtent et font descendre le conducteur. Sans avoir besoin d'utiliser la violence, leurs uniformes parlent pour eux. La R20 démarre en trombe et disparaît dans le 14e arrondissement. Jacques vient de réussir sa 4e évasion. Ex aequo avec François.
La BRI du commissaire Broussard, associée à l'Office central pour la répression du banditisme, retrouve le Renault 20 boulevard Lefebvre, dans le 15e. Les analyses du véhicule ne donnent rien. Pas plus que les perquises chez Christiane Giletti, soupçonnée de complicité. Mesrine a filé sans laisser de traces. À part l'immense camouflet infligé au pouvoir public. Désormais, en France, il est l'ennemi public numéro 1.
Jacques et François trouvent refuge passage Charles Albert, dans le 18e arrondissement. Jacques connaît bien le quartier. Il a grandi à quelques kilomètres de là, à Clichy. Il venait ici faire les 400 coups. Les premiers d'une belle carrière. Passage Charles Albert, il prépare les prochains avec François. Jacques éprouve une amitié profonde pour son camarade d'évasion. Avec lui, il compte bien faire un bout de chemin. Et pour le commencer, il leur faut les moyens de travailler.
Le 16 mai 1978, 8 jours après leur évasion, Mesrine et Bess braquent l'armurerie Brusson, à 2 pas de la gare de l'Est. Butin, 20 000 francs, 10 revolvers et 700 cartouches. 10 jours plus tard, le 26 mai, ils se rendent au casino de Deauville, déterminés à toucher le jackpot.
Au casino, Jacques et François jouent les faux policiers. Ils demandent à être conduits auprès du directeur des jeux. Une fois dans son bureau, ils tombent les masques. Je suis Mérine. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Le directeur des jeux a entendu parler de lui. Sans faire difficulté, il remplit de billets les 2 sacs de sport. Jacques et François embarquent le tout et traversent le casino en sens inverse.
Une voiture de police les attend à la sortie. Un caissier a donné l'alerte. Mesrine et Bess ouvrent le feu. Les flics ripostent. Un vrai déluge. L'ennemi public numéro 1 se rue vers la bagnole. Les tirs des agents font mouche 2 fois, à la hanche et à la main.
Jacques poursuit quand même sa course. L'adrénaline le tient. Il plonge dans la bagnole et démarre pour venir à la hauteur de François. Le petit est salement touché. Une balle dans la jambe, une autre dans la crosse de son flingue. À quelques centimètres près, c'était le cœur. François bondit à la place du mort, Jacques enfonce la pédale et met de la distance avec ses poursuivants.
Immédiatement, le secteur est bouclé. Les flics savent que la voiture des deux fuyards a un pneu crevé. Facilement repérable, ils n'iront pas loin. Les gendarmes prennent le relais. La route de campagne, c'est leur rayon. Ils quadrillent la région de barrage.
Il est 2h du matin. Jacques et François ont eu le temps de changer de bagnole. Une R14 dans laquelle ils s'approchent d'un barrage, à la vitesse réglementaire. Les gendarmes ne se doutent de rien. Jusqu'à ce que Jacques écrase l'accélérateur et décharge son arme à travers la vitre. Les militaires ripostent. Les vitres de la R14 explosent. Mais ils parviennent à passer. Jacques a pris une balle dans l'omoplate. Une autre a éraflé la tempe de François. Criblée d'impact, la R14 rend l'âme. Il l'abandonne un peu plus loin et poursuit à pied, le long de la voie ferrée. Les hélicoptères tournent au-dessus d'eux. Ils se planquent sous les arbres et attendent la nuit pour repartir. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
Le 28 mai, à 6h30, un promeneur les signale dans le bois de Bernay. Il faut attendre 9h30 pour que la gendarmerie déploie un important dispositif. 200 hommes, des maîtres chiens, des hélicoptères et même le GIGN. Les bois sont ratissés. Mais entre le signalement et l'arrivée des forces de l'ordre, Mesrine et Bess se sont trouvés une autre planque.
Jacques connaît la région comme sa poche. La maison de campagne de ses parents est à Louviers, à 50 bornes de là. C'est lui qui sert de guide aux deux fugitifs. Ils font d'abord une halte chez des potes de François, avant de s'introduire dans la ferme de famille Le Laudet. Ils prennent tout le monde en otage et se font tranquillement raccompagner à Paris, cachés dans le coffre de la déesse familiale.
C'est un échec cuisant pour les flics. Et ils le doivent en partie à leur manque de communication. BRB, OCRB, PJ, SRPJ, BRI, gendarmerie, chaque service tient la couverture à lui. Tous veulent être ceux qui servent Mesrine. La stratégie du grand Jacques fonctionne. Ses provocations dans les médias, sa popularité, sa croisade contre l'État énervent jusqu'aux plus hautes sphères. C'est la crédibilité des pouvoirs publics et des forces de l'ordre qui est en jeu. Et pendant un an, elle va prendre à nouveau de sérieux coups.
C'est que Jacques a des comptes à régler. Avec la Société Générale d'abord. La banque a saisi ses droits d'auteur liés à la vente de L'Instinct de mort, son autobiographie. Alors, le 30 juin 1978, il prend en otage la famille d'un fondé de pouvoir pour le forcer à vider les coffres de l'agence du Rincy. Il repart avec 450 000 francs. La justice, ensuite. Son traitement en QHS lui reste en travers de la gorge. Le 10 novembre 1978, il tente d'enlever le juge Petit qui l'a condamné à 20 ans de prison. Échec total. Le juge n'est pas chez lui et sa famille alerte les flics. Jacques échappe à l'arrestation, au nez et à la barbe des flics présents.
La désorganisation des services de police atteint son paroxysme lors de l'enlèvement d'Henri Lelièvre. Mesrine et un complice, Michel Chaïevski, dit le Viking, kidnappe le milliardaire de la Sarthe le 21 juin 1979. Comme à Deauville, ils se font passer pour des flics. Une manière pour Mesrine de les ridiculiser. Le 25 juin, le fils Lelièvre reçoit une demande de rançon de 6 millions de francs. S'il ne paye pas, son père y passe. c'est l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRB, qui se charge du dossier. Normalement, Mesrine, c'est l'affaire du commissaire Broussard, depuis l'arrestation au Champagne. Mais l'enlèvement a eu lieu dans la Sarthe, en province. Et ce qui se passe en province est du ressort de l'OCRB. Le commissaire divisionnaire, Lucien Aimé Blanc, qui le dirige, met en place une filature pour la demande de rançon. Le 12 juillet 1979, Michel Lelièvre, le fils du milliardaire, se rend à l'endroit où il doit déposer les 6 millions. Une quinzaine de véhicules banalisés dans son sillage.
Jacques a mis au point un jeu de pistes en 5 étapes pour perdre les flics. Le fils de Lièvre doit se rendre à un premier endroit où on lui en indique un second, et ainsi de suite jusqu'au terminus, le panneau publicitaire sur l'autoroute. Le fils du milliardaire doit y trouver les ultimes instructions pour remettre la rançon. Planqué dans un coteau surplombant l'autoroute, Jacques et Michel voient la Merco du fils Lelièvre s'arrêter sur le bas-côté. Chaïevski sort de sa cachette et le met en joue. Le fils Lelièvre doit grimper le coteau pour les rejoindre.
Voyant le fils Lelièvre s'enfoncer dans les fourrés, Aimé Blanc donne l'ordre à ses hommes d'intervenir. La BM banalisée des inspecteurs Sarda et Lejeune ralentit à la hauteur de Lelièvre. Ils n'ont pas vu Mesrine et Chaïevski sur leur promontoire.
Jacques, lui, les a vus. Il presse 9 fois la détente de sa 22 long rifle. La BM des flics reçoit son lot de projectiles. Jacques s'empresse de déguerpir avec Michel, mais sans le fric.
L'opération est un fiasco. Et le fils Lelièvre a failli laisser sa peau. Prenant au sérieux les menaces de mort qui pèsent sur son père, le fils Lelièvre décide d'honorer le second rendez-vous que lui fixe Mesrine. Cette fois-ci, sans les flics. Le 27 juillet, il échappe volontairement à sa surveillance policière et livre 10 millions de francs contre la libération de son père. Le lendemain, Mesrine relâche le milliardaire, 38 jours après son enlèvement. Du ministère de l'Intérieur à la présidence de la République, la pilule ne passe pas. Le 21 août 1979, le ministre de l'Intérieur désigne à la tête de tous les services Maurice Bouvier, alors directeur central de la police judiciaire. Et Bouvier désigne le commissaire Broussard à la tête de l'enquête sur Mesrine. La consigne est simple. Il faut en finir avec l'ennemi public numéro 1.
Jacques se sent pousser des ailes. Il est riche, célèbre, iconique, invincible, et malheur à ceux qui salissent son nom. À commencer par certains journalistes qui n'ont pas le courage de leurs mots. En premier lieu, Philippe Bouvard, auteur de chroniques diffamatoires dans François. Mais également Jacques Tillier, qui a prétendu dans le journal d'extrême droite Minute que Mesrine lâchait ses complices pour sauver sa peau. Apprenant que le journaliste fait des pieds et des mains pour obtenir une interview, il lui fixe rendez-vous.
Le 10 septembre 1979, en compagnie d'un complice, Jacques Mesrine torture Tillier dans une grotte de la forêt d'Alate. Après l'avoir forcé à se déshabiller, il le passe à tabac et le prend en photo dans son plus simple appareil, avant de le laisser pour mort, avec 3 balles dans le corps. De tous ses péchés d'orgueil, Mesrine vient de commettre celui qui coûtera le plus cher. Tillier n'est pas seulement un journaliste, c'est surtout un ancien flic. À peine sorti de sa convalescence, il active ses réseaux et donne aux flics le nom de l'actuel complice de Mesrine, Charles Bauer, un ancien tolard originaire de Marseille, militant révolutionnaire qui a passé 9 ans dans les QHS.
Jacques et Charlie se sont connus à l'été 1979. Ils partagent la même répulsion pour les quartiers de haute sécurité et le goût des opérations musclées pour arriver à leur fin. Jacques sait qu'il peut compter sur Charlie depuis l'enlèvement de Tillier. Le Marseillais a tenu ses nerfs et sa langue. Et puis, leurs nanas s'entendent bien.
Au début de l'automne 1979, l'équipe d'inspecteurs de la BRI et de l'OCRB, menée par Broussard, apprend que la compagne de Bauer possède une R14. Les flics épluchent 17 000 contraventions. Si la R14 s'est pris une prune, ils sauront dans quel secteur. Leur travail de fourmi porte ses fruits. La Renault est localisée près de la gare Saint-Lazare. Fin octobre 1979, les flics identifient Charles Bauer au 101 de la rue Saint-Lazare. Broussard déclenche la filature, en espérant que le Marseillais le conduise à Messrine.
Jacques fait profil bas depuis l'affaire Tillier. Il habite un studio dans le 18e arrondissement avec Sylvia Jean-Jacques, une femme de 28 ans qu'il a connue à Pigalle. Il file le parfait amour. Jacques passe ses journées à lire les journaux et à regarder la télé. Il traque la moindre information qui parle de lui. Avec Sylvia, ils ont le projet de partir en Italie. Jacques lui fait miroiter une nouvelle vie dans laquelle il ne serait plus l'ennemi public numéro un.
Le 31 octobre 1979, se rendant chez Messrine, Bauer le vend aux flics sans le vouloir. Le grand Jacques est identifié au bras de sa compagne, sortant de l'immeuble qui occupe le numéro 35 à 37 de la rue Béliard. L'excitation gagne les inspecteurs en planque. L'ennemi public numéro 1 est à portée de menottes. Mais Broussard refuse de précipiter une interpellation. Lors de leur dernière confrontation, Messrine lui a promis un duel, c'est-à-dire un bain de sang. Le 1er novembre, le commissaire déploie ses hommes autour du domicile de Messrine. Pour l'appréhender, il met en place un dispositif qui doit éviter les morts inutiles.
Vendredi 2 novembre 1979. Traditionnelle journée des morts. Jacques se réveille en début d'après-midi, l'estomac retourné par ses abus de l'avant-veille. Sylvia est à ses côtés, toujours aussi belle avec ses traits d'italienne. Il lui souhaite un bon anniversaire et lui promet une soirée inoubliable. Sylvia lui propose de repousser le rendez-vous qu'ils ont à Marly-le-Roi dans 2 heures, pour laisser à Jacques le temps de se refaire une santé. Il n'a plus 20 ans, mais 43 ans dans un mois. Jacques refuse. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ?
Il est 15 heures. La quarantaine d'hommes de Broussard quadrille le quartier autour de la rue Béliard. Le commissaire se trouve à 200 mètres, dans une allée parallèle au boulevard périphérique. La radio lui indique que Messrine et sa compagne sortent de l'immeuble. Il s'installe dans une BMW grise. La filature se met en place. La fébrilité gagne les flics. L'ennemi public numéro 1 les fait courir depuis 18 mois. 18 mois de cavale et de provoque. 18 mois à les ridiculiser.
Dans la BMW grise, Jacques et Sylvia ressemblent à n'importe quel couple qui part en week-end. À quelques flingues et grenades près. Jacques ne se déplace jamais sans ses grenades incendiaires. Il mourra les armes à la main comme d'autres meurent sur scène. C'est le destin qu'il s'est choisi depuis qu'il est gamin.
15h15. Porte de Clignancourt. La BMW grise s'apprête à tourner à gauche sur le boulevard Ney. Elle s'arrête au feu rouge. Cernée de véhicules banalisés. Derrière, une Peugeot 104. À sa droite, une Citroën GS. Devant, un camion bâché, comme les primeurs en possèdent. 4 tireurs d'élite en guise de cargaison. La situation est idéale. Broussard donne le coup d'envoi. Allez les enfants, on y va.
Derrière le volant de la BM grise, Jacques voit les flics bondir de leur bagnole. Il voit les canons le fixer de leur œil sans pupille. Il a compris. C'est l'heure de vérité. À lui de tirer le premier. Il amorce un geste.
Un déluge de feu s'abat sur la BMW, clouant à son siège l'ennemi public numéro 1. Les flics n'ont pris aucun risque. Bloqué dans la circulation, Broussard arrive après la sentence. Derrière le volant, Jacques Mesrine gît, la tête sur le côté, le corps retenu par la ceinture de sécurité. Déjà, les curieux se pressent autour de sa dépouille. Les journalistes l'étalonnent, les flashs crépitent. C'est la cohue sur la place de la porte de Clignancourt. Jacques Mesrine n'est plus. Mais l'ennemi public numéro 1 vient de rentrer dans la légende.